Gérard Oury, un nom qui éclate en lettres majuscules et appelle aussitôt d'immenses succès. Le Corniaud, la Grande Vadrouille, la Folie des Grandeurs sont devenus les beaux éclats du banquet cinématographique. L'écoutant, je retrouve l'ami avec lequel nous avions, son complice Marcel Julien et moi, les plus chaleureux échanges. J'ai toujours eu avec lui des moments privilégiés.
Tout de suite, une litanie de titres, le Corniaud, la Grande Vadrouille, la Folie des Grandeurs, le Coup de Parapluie, la Carapate, les Aventures de Rabbi Jacob, l'As des As, la Vengeance du Serpent à Plumes, David et Goliath.
Lévi et Goliath, bien sûr.
David et Goliath, c'est autre chose. Et ensuite, les grands souvenirs, tous les grands souvenirs de Gérard Oury, car tout cela, c'est la panoplie. Alors, considérez-vous, Gérard Oury, que tout cela représente une œuvre cinématographique.
Non, moi, je pense que ma vie représente non pas un long fleuve tranquille, mais un long fleuve agité.
Très bon film, un long
fleuve. Bon film. D'accord. Et ce long fleuve agité, j'ai eu envie de faire un stop, d'arrêter précisément mon travail de cinéaste, et je l'ai arrêté pendant 2 ans pour écrire Mémoire d'éléphant.
Alors, comédien, vous l'avez été, scénariste, réalisateur, vous l'êtes resté, vous devenez aujourd'hui écrivain, et justement, il y a là ces Mémoires d'éléphant. Alors, on peut considérer parfois que un metteur en scène a très envie de raconter sa campagne, ses campagnes, et de faire un livre de plus consacré à la cinématographie. Vous avez eu la chance, Gérard Oury, je crois, d'avoir une mère, d'avoir une enfance et d'avoir pu côtoyer vraiment tout ce qui compte dans la littérature, dans la musique, dans la peinture. C'est une chance, c'est un privilège.
C'est un privilège total, complet. C'est une inégalité, je dirais. Une inégalité de naissance, non pas par l'aristocratie ou par l'argent, car ma mère n'était pas riche. J'ai été élevé par 2 femmes absolument merveilleuses. On a coutume de dire qu'on a été élevé souvent par une mère merveilleuse, mais ce fut un personnage extraordinaire, et je ne suis pas le seul à le dire.
Je peux le dire.
Vous pouvez le dire, Jacques Chancel. Effectivement, vous l'avez connue, mais à 86 ans, quand elle a disparu, elle était encore une toute jeune femme. C'était une vieille jeune femme. Et elle avait autour d'elle François-René Duchâble, Rostropovitch, Éric Tabarly, qui lui rendait visite, comme à une jeune femme. Ils parlaient ensemble. C'était un cénacle qui était au-dessous de chez moi, car elle habitait au rez-de-chaussée et moi au premier étage, dans le même immeuble. J'étais resté là parce que je savais, que je sentais qu'elle était sécurisée par ma présence, puisqu'elle vivait seule, et le fait que je sois au-dessus, et qu'elle me sente là, qu'elle pouvait m'appeler au secours, éventuellement, car elle avait toujours peur. Peur de mourir. Et en fait, le jour où elle est partie, elle m'a appelé au secours. Elle m'avait déjà appelé plusieurs fois au secours, mais là, ça c'était le vrai moment. Elle m'a dit « Descends, je vais mourir », et elle est morte. On doit savoir à ce moment-là. Bon, ben, écoutez, c'est pas comme ça que je voulais en fait commencer mon entretien avec vous, c'est-à-dire tristement, puisque j'ai mis en exergue à mon livre le mot d'F. Curie, il est poli d'être gay.
Il est poli d'être gay. Mais c'est bien que vous parliez de votre mère, Gérard Oury, parce que vous lui avez dédié votre livre. Et c'est en voulant raconter sa vie qu'à la vérité, vous avez raconté la vôtre.
C'est exactement ça.
Donc, elle a sa place dans un entretien comme celui-là. Mais je pense quand même à cette femme assez exceptionnelle qui a eu les relations qu'elle a eues. Vous dites, elle avait commencé au bas de l'échelle, elle n'avait pas une fortune.
Non,
elle,
pas du
elle
tout.
Elle n'avait pas de relations particulières.
Quand son père est mort, et j'avais 3 ans, elle avait divorcé de Serge Tenenbaum, qui était un grand violoniste, et elle était sans argent, et elle a commencé à faire ce qu'on appelait à l'époque de la réclame. Et la réclame, c'est devenu de la publicité. Alors, petit à petit, elle a connu des gens, elle est allée trouver le grand couturier Paul Poiret, et ils ont fait ensemble un immense travail, un magnifique catalogue des industries françaises exportatrices. Paul Poiret était un mécène étonnant, c'est un personnage que j'ai connu tout enfant. C'est l'homme qui, au moment de l'exposition des Arts déco, moi j'étais alors vraiment haut comme la pomme, avait sur la scène fait des 3 péniches admirables, Amour, Délices et Orgue, et qui était simplement décoré par Raoul Dufy, par Segonzac. Et c'est chez Paul Poiret que ma mère a connu Raoul Dufy. Et j'ai passé pratiquement mon enfance auprès de ces hommes-là, de Paul Poiret, aussi de Fujita, qui était un grand ami de la famille. Nous allions en vacances avec Fujita et sa femme Yuki, et qui est devenue ensuite la femme de Robert Desnos. Alors tout ça, c'était un univers avec André Derain. Dufy était ami avec Apollinaire, Paul Poiret, Max Jacob. Tous ces personnages défilaient rue de la Tour à l'endroit où nous habitions. Et moi, je dois dire que j'étais... Je n'avais pas la sensation que c'était des gens qui demeureraient comme des génies, des personnages fabuleux dans l'histoire de l'art ou de la littérature. Mais j'avais quand même la sensation que c'était des personnages pas comme les autres, tout à fait exceptionnels. Je crois que j'avais le sentiment, en les entendant parler, que c'était brillant, que c'était exceptionnel, que c'était drôle, que c'était cultivé, bien que je ne sache rien. Et puis, en plus, ils étaient adorables avec moi. Moi, j'ai reçu il y avait un marchand de soldats de plomb. Rue des Saints-Pères, qui s'appelait le Plat d'Étain. Un jour, j'ai reçu 500 soldats de plomb de la part d'André Derain. J'avais on me faisait cadeau d'aquarelles ou de tableaux ou de peintures.
Que vous avez d'ailleurs conservé.
Non, que j'ai d'ailleurs vendu.
Ah, vous avez vendu.
Que j'ai vendu d'abord.
Il vous reste pas mal de choses.
Parce que plus tard, j'en ai racheté. Plus tard, j'en ai racheté. J'avais le culte de c'était un cordon ombilical pour moi, ces hommes-là. Alors, j'ai racheté ces peintres-là parce que je les connaissais, puis que je m'y connaissais bien dans ces œuvres-là. Mais en fait, je les ai vendus en trois circonstances. Première circonstance, sautement à 17 ou 18 ans pour sortir avec des filles, parce que j'avais pas un sou et j'ai bradé ces aquarelles de Dufy, ces tableaux de Fujita que j'avais. Et puis ensuite, il m'en restait quelques-uns. Bon, ils sont partis, ils nous ont aidés à survivre sous l'occupation. Et puis alors, troisième période, entre 45 et 49, retour après pas mal de mésaventures, entre 45 et 49, où j'ai fort peu travaillé, joué des pièces qui se cassaient la figure, essayé de reprendre mon métier de comédien, et ça marchait pas souvent, les pièces se cassaient la figure, où j'espérais des rôles et je ne les avais pas. J'ai demandé à Dufy, je lui disais Raoul, ça va mal, il me disait t'inquiète pas, et là il me donnait une aquarelle de course.
Vous savez ce que vaut Raoul Dufy aujourd'hui?
Je sais, et j'allais le vendre pour 3 francs chez Petrides, mais c'était 3 francs qui me permettaient à l'époque de vivre, de faire vivre ma femme et ma petite fille Danielle.
Alors Gérard Houry, Mémoire d'éléphant vous a demandé un grand travail parce que vous n'aviez pas de coquetterie particulière avec l'écriture. Je sais à quel moment vous avez commencé cette rédaction.
Ouais, je ne voulais pas faire un film, un bouquin dicté ou négrifié.
Non, vous vouliez l'écrire vous-même.
Je voulais l'écrire moi-même.
Ouais. Alors ça s'est passé comment? Et d'abord, pourquoi ce titre Mémoire d'éléphant?
Parce que j'ai beaucoup de
mémoire. Qui l'a choisi?
Parce que j'ai beaucoup de mémoire.
Oui, vous avez de la mémoire, mais dans le même temps, vous avez de petits carnets, car vous marquez tout depuis 1945.
Non, je n'ai pas tenu de journal, mais j'ai gardé ce que tout le monde devrait faire, mes carnets de rendez-vous, mes carnets de trimestriels. Et alors là, quand vous retrouvez, par exemple, quand vous voyez que vous avez déjeuné avec Jacques Chancel, par exemple, à telle date, telle année, et à vous rappeler que la raison était que vous vouliez parler de la radioscopie que vous faisiez à ce moment-là.
Et les souvenirs reviennent.
Et les souvenirs reviennent à l'aide de ça.
Ce sont des bornes kilométriques.
Mais j'ai vraiment beaucoup de mémoire, puisque si vous vous en souvenez, Jacques, au moment où nous avons fait ensemble le Grand Échiquier, vous vous rappelez de cette anecdote, je crois que je vous l'avais racontée, j'avais, pour le Grand Échiquier, demandé à François Perrier, qui est un très vieil ami avec lequel j'étais au lycée Janson, puis plus tard au cours Simon, puis plus tard au conservatoire. Et au conservatoire, je lui avais donné la réplique à son concours de sortie. Et inversement, il m'avait donné la réplique. Je lui ai demandé de venir au Grand Échiquier, c'était il y a 3 ans.
Oui.
Et nous avions décidé que je lui donnerais la réplique dans sa scène de concours de sortie du conservatoire qui était en 1939. En juin-juillet 39.
50 ans, quoi.
Ça fait grosso modo 50 ans.
Un demi-siècle.
Et alors, je lui ai donné la réplique dans Mosca de Volpone. Et là, il m'a dit, j'ai conservé la scène. Je te l'envoie. Et il m'a envoyé la scène, que je n'avais pas vue depuis, donc près d'un demi-siècle. Je l'ai regardée, je la savais. Donc la mémoire humaine, c'est quelque chose où s'enfouit un certain nombre de choses, sont enfouies et rejaillissent au moment où on en a besoin.
Ça, c'est le comédien, là, qui peut réagir de cette manière. Et c'est le comédien qui peut avoir cette mémoire, car cette mémoire est devenue une mécanique.
Oui, c'est devenu un muscle. Probablement. Oui.
Alors, il y a ce livre, vous pouviez tout dire, et j'imagine que vous avez quand même gardé pour vous, connaissant votre pudeur, beaucoup de secrets. Si on n'a pas tout à dire, faut-il arriver jusqu'au bout d'un livre? Et je le dis, Gérard Houry, parce que vous parlez de Marcel Pagnol. Vous racontez un jour, Marcel Pagnol vous a rendu visite et vous a apporté son œuvre complète. 20 volumes dédicacés.
Ah, il n'y en a pas 20.
Non. Combien?
Il y en a 6 ou 7.
Ah, je croyais qu'il y en avait
beaucoup. Non, il y en avait 6 ou 7.
Alors, il y a ces livres dédicacés que vous avez fait, je crois, relier.
Ah, magnifiquement, oui.
Et au hasard de ces livres, vous avez trouvé une phrase que vous mettez en exergue. Si je ne suis pas sincère, c'est-à-dire sans aucune pudeur, j'aurai perdu mon temps à gâcher du papier. Cela veut dire que si l'on écrit, si l'on raconte, il faut aller jusqu'au bout du récit. Bon, pas compromettre des gens, mais quand même tout raconter. Or, vous ne pouvez pas tout dire.
Non, il y a un moment tout de même où je pense qu'il y a une certaine pudeur, qu'il y a une certaine... Vous parlez de pudeur, là, et Pagnol en parlait, mais je pense que, bon, on doit arrêter tout de même... Je ne sais pas, moi, j'aurais honte d'avoir écrit un certain nombre de choses qui dépasseraient les limites de la décence. C'est quelque chose que je n'aime pas, qui est contraire à ma nature.
Qui vous heurte dans les autres livres.
Et qui me heurte quelquefois dans les autres livres. En tout cas, qui m'aurait heurté de ma propre initiative. Mais, par contre, je crois qu'il est indispensable. Et après 80 pages écrites, avant que je tourne Lévi et Goliath, j'avais écrit 80 pages. 80 pages tapées à la machine, ce qui font 20 pages de volume. Daniel Tonfern, ma fille, m'a dit, écoute, si tu n'es pas totalement, non pas sans pudeur, mais si tu ne dis pas vraiment, si tu n'ouvres pas vraiment ton cœur, ce bouquin sera raté. Et comme ça concernait... principalement les femmes que j'ai aimées, c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère, ma fille, ma première femme, enfin Michel, etc. J'ai essayé de stopper les machines pendant 2 ans, et je pense que c'est complètement salutaire pour un homme, et d'essayer de repenser à ce que j'avais fait de bien et de mal. Parce que les gens ne font pas que des choses bien, et que je pouvais m'autocritiquer moi-même sur un certain nombre de points. Je pensais que c'était nécessaire, avant de repartir sur un autre film, de faire cet arrêt. En fin de compte, je suis assez content, non pas de mon livre, mais simplement de l'avoir fait, d'avoir fait revivre ma mère, et d'avoir fait revivre ma première femme, qui était quelqu'un de formidable, qui était une jeune fille, qui a fait des choses...
Qui est la mère de Daniel.
Qui est la mère de Daniel. Qui
Daniel
de
Thompson.
Daniel Thompson. Et qui, au moment de l'occupation, quand nous avions... des problèmes ô combien douloureux, l'un et l'autre, puisque je n'avais plus le droit de travailler, que c'était l'occupation, qu'il y avait eu des lois antisémites appliquées par le gouvernement de Vichy dès juin 1940, et que je me suis trouvé dans un moment dans l'impossibilité de travailler. C'est tout de même une jeune femme qui a eu le courage, avec son gros ventre, alors que nous n'étions pas mariés, parce que si nous nous marions à ce moment-là, notre enfant, au moment, selon les lois en question, vous savez, quand vous aviez plus de 2 grands-parents israélites, vous tombiez, n'importe quoi pouvait arriver au bébé. Donc nous avions décidé de ne pas nous marier et que je ne reconnaîtrais pas l'enfant. Et un beau jour, c'est ce que je raconte dans le livre, je suis rentré à l'hôtel Beauvau à Marseille où nous étions et j'ai trouvé un petit billet de ma femme, je l'appelle comme ça bien que nous n'étions pas mariés à l'époque, me disant « je reviens dans 2 jours, ne t'inquiète pas, mon chéri, etc. » J'ai été au contraire très inquiet, j'ai téléphoné à tous nos amis, je n'ai pas trouvé de trace. Et elle était partie, en fait, pour Vichy. Et elle avait décidé d'aller trouver le maréchal Pétain pour lui dire « C'est injuste qu'on ne laisse pas Gérard travailler. Le droit au travail, c'est quelque chose de sacré. » Et le plus extraordinaire de toute cette affaire, c'est qu'elle est presque arrivée au maréchal Pétain. Elle a franchi tous les barrages. Avec son gros ventre, ravissante, il faut bien le dire.
Oui.
Et elle a franchi, elle est arrivée jusqu'au docteur Ménétrel, qui était le conseiller, le jeune conseiller du maréchal Pétain. Bon, tout ça s'est mal terminé, en fait, parce que tout en ayant eu un très bon accueil de la part du docteur Ménétrel, qui n'était pas un méchant homme, mais il l'a répercuté sur quelqu'un qui était un méchant homme, et qui était le haut commissaire aux affaires juives, M. Xavier Vallat, et qui ne s'est pas comporté d'une manière bien... bien belle. Mais enfin, ça, on ne pouvait pas demander à un homme qui avait accepté le poste d'être commissaire aux affaires juives de se comporter convenablement.
Mais Gérard Rouy, par rapport à cette époque, est-ce qu'il y a encore chez vous un peu d'esprit de vengeance ?
Non, aucun.
Une colère ?
Aucun esprit de vengeance. Je n'ai aucune colère. J'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs douloureux. J'ai des souvenirs gays. Et comme je l'ai dit, il est poli d'être gay. Je ne peux pas... La seule chose que je dis à un moment dans mon livre, il faut simplement être vigilant parce que quelque part, la bête rôde. Donc, il faut être vigilant. Mais on ne peut pas passer sa vie. Moi, ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier.
Et puis, de toute manière, lorsqu'on fait le bilan, ça n'est pas si mal. Et tout avait bien commencé.
Et puis, j'ai eu beaucoup de chance.
Oui. Parce que vous écrivez,
énormément.
Parmi tous les copains du lycée Janson, mon meilleur ami est Édouard Sablier. 15 ans comme moi et les mêmes affinités électives. Alors là, on y va.
Hein. Oui, on y va. Alors, il faut les lire.
Dans l'ordre, les affinités. Dans l'ordre. Les filles. Les matinées classiques de l'Odéon. Où nos parents nous ont pris chacun un abonnement, le cinéma Luna Park, les éclaireurs, et en dernier lieu,
Les études.
Les études. Alors, vous n'avez pas un peu honte, non ?
Non, moi, j'étais un très Monsieur mauvais élève. Siegel et Sablier, Maurice Siegel, qui était l'autre copain de classe.
Et Jean Dutour.
Et Jean Dutour travaillait beaucoup mieux que moi. Ils travaillaient tous. Moi, je dormais, comme disait le professeur Monsieur Truc, qui est un merveilleux nom de professeur, Monsieur Truc, Gonzague Truc. Je dormais au fond de la classe. Mais enfin, vous savez, même si on dort au fond de la classe, je crois qu'il y a quand même... Des choses qui vous rentrent par l'oreille et qui ne sortent pas par l'autre, qui restent quand même dans l'inconscient.
Mais c'est tout à fait normal qu'un jour on ait pu vous dire, ou qu'on ait dit à votre mère, vous pourrissez cet enfant, vous n'en ferez jamais rien. Parce que lorsqu'on a la chance d'avoir une mère comme la vôtre, qui fréquente Paul Poiret, Pierre Lazareff, Charles Gombeau, Raoul Dufy et les autres, on finit quand même par avoir un jardin privilégié et on se dit, je suis quelqu'un lorsqu'on est un enfant.
C'est-à-dire qu'on est attiré, il est certain qu'on est attiré par le monde des arts. Je ne crois pas que... Il n'aurait pas été logique que je devienne commerçant ou industriel ou simplement décideur, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout mon goût. Parce que je conserve cette espèce de goût de rêverie. Et la rêverie, c'est rêver un film, c'est rêver un livre. Ou c'est rêver, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Moi, j'aurais pu être très bien à votre place et j'aurais pu très bien être en train d'interviewer Jacques Chancel parce que j'aurais pu... Non pas être Jacques Chancel, mais j'aurais pu... Et c'était un peu mon destin et mon goût et l'envie que j'avais, c'était d'être journaliste.
Votre mère.
Comme ma mère et comme les amis que je voyais, c'est vers ça. Et puis tout d'un coup, le goût de l'Oripo, le goût poussé de cette rêverie, le goût d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on est soi-même, m'a poussé naturellement vers le théâtre. Le théâtre, ça m'a amené ensuite au cinéma et ainsi de suite.
Je dois dire tout de suite, Gérard Oury, que j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est plein de notes qui doivent séduire tout le monde. Parce qu'il y a le cinéma, mais il y a... toutes vos rencontres. Vous écrivez par exemple « Petit garçon assis sur un pliant, j'eus la chance de regarder travailler deux grands artistes, Raoul Dufy et Fujita, ne serait-ce que pour ça déjà. Fujita, accoudé à une table basse, travaillait accroupi. Il semblait caresser le papier avec un pinceau d'une minceur extrême, d'où naissaient chats, femmes, nus musculeux, droit sortis de l'école de chevalerie de Kyoto. Il acheva un matin devant moi une immense toile qui me troubla. Dans le ventre d'une belle femme, deux jumeaux se faisaient face, tête bêche. « Eh oui, mon petit Gérard, c'est comme ça que ça se passe, » dit-il en souriant. « Je rougis au Japon ? » ?»« Non, partout. » C'est-à-dire la relation que vous aviez avec ces gens-là, qui était une relation plus que privilégiée, car ils étaient vos amis, ils étaient presque vos pères.
Mais nous allions en vacances avec Fujita et Yuki. Et ce qui était extraordinaire dans le cas de Fujita, ce que j'admirais aussi beaucoup, c'est que c'était un champion de jiu-jitsu. Il avait un corps lui-même extrêmement musclé, très beau, et il m'apprenait le jiu-jitsu. Alors, dès qu'il arrivait, vous savez, comme les petits garçons sont bêtes, je me ruais sur lui et j'essayais de l'attraper, de le renverser. Il me balayait d'un revers. Mais ce sont des souvenirs merveilleux. C'est un homme, en plus, qui sentait bon. Il avait un extraordinaire parfum que je n'ai jamais retrouvé. Je ne sais pas quelle essence était mélangée à cette peau qui semblait toujours bronzée, mais il était super avec cette frange, cette petite moustache.
Oh, je le vois bien. Et je me souviens lorsqu'il est devenu Léonard.
Léonard, oui.
Il était Fujita, puis
il a basculé. Il a épousé une jeune femme qui est toujours là, heureusement. Et
il est devenu Léonard Fujita.
Il est devenu Léonard Fujita.
Et il y a des toiles de lui au Petit Palais à Genève en ce moment qui sont tout à fait remarquables. Ouais. Alors il y a eu toute cette vie, et je me demande si aujourd'hui vous pourriez dire, comme vous disiez autrefois, je trouve mes obsessions normales. Si on me diminue ma semaine, je fonce rue La Boétie. Je vends au premier marchand venu mes deux Fujita, l'aquarelle que Dufy m'a donnée pour Noël. Et sur cette pensée rassurante, vous vous endormez. Alors aujourd'hui, je sais
ce que vous avez. Mon cher Jacques, vous ne dites pas quelles étaient ces obsessions. Vous ne le dites pas, là.
Non, mais je ne le dis pas quelles étaient. Alors dites-le moi.
C'était les obsessions d'un garçon de 15 ans qui commence beaucoup à penser aux filles et qui n'a pas d'argent pour les sortir.
Et puis, je ne sais plus à quel âge Fujita a fait votre portrait. Vous avez conservé ?
J'ai un portrait de Fujita sur... Oui, bien sûr. J'ai deux portraits de Fujita. Un qui est que ma fille a, lorsque j'avais 18 ans, et un autre quand j'avais 8 ans, que j'ai toujours, par chance. Malheureusement, je n'ai plus d'autres Fujita, sinon quelques livres dédicacés avec des dessins qu'il avait faits quand j'étais tout petit, qu'il m'a donné, qui étaient des livres japonais magnifiques. Et puis ce petit portrait, très beau, qu'il a fait sur le jour de l'anniversaire de mes 8 ans, qu'il a fait avec des crayons de couleur d'une boîte qu'il a fait acheter. Et je me rappelle que c'était au premier étage de Potel et Chabot, qui était avenue Victor Hugo. Et il a fait ça pendant le déjeuner. Et je l'ai toujours.
Vous imaginez, si Raoul Dufy vivait encore aujourd'hui, il vous dirait, avec le prix qu'il vaut, mon petit Gérard, je vais te faire un tableau. Tu as des problèmes, je vais te faire un tableau. Tu le vendras. Ça serait formidable.
Mais il l'a fait, ça.
Et il l'a fait.
Et il l'a fait.
Il l'a fait, mais il ne valait pas à ce moment-là ce qu'il vaut aujourd'hui.
Non, mais ça valait quand même.
Il ne pouvait pas le savoir, en plus.
Non, Jacques, naturellement. Mais vous savez, ça valait quand même déjà... Raoul Dufy est mort en 53. Et quand j'ai eu vraiment des panades sérieuses et qu'il m'a dépanné en me disant « va vendre ça », il savait très bien donc, que j'allais le vendre puisqu'il m'y encourageait. C'était déjà quand même, à ce moment-là, en 53, c'est déjà beaucoup plus... ça avait un prix qui avait beaucoup monté par rapport aux années d'avant-guerre. C'était déjà un peintre qui se vendait cher.
Et que vous reste-t-il d'Apollinaire ?
Eh bien, d'Apollinaire, il me reste une lettre d'Apollinaire à Raoul Dufy qui est publiée dans ce livre.
À la fin.
Que je ne pensais pas d'ailleurs pouvoir garder. Parce qu'il y a un certain nombre de lettres qui sont dans le livre, que j'ai mis à la fin, en annexe, qui sont des originaux de lettres, que soit à ma mère, soit à moi-même, que je ne pensais pas pouvoir garder. C'est une des raisons d'ailleurs aussi pourquoi j'ai fait le bouquin. Je n'ai pas toutes publiées, malheureusement.
Oui, parce que moi qui connais un peu de ce que vous avez, pourquoi vous êtes passé à côté de tout ce que vous possédez ?
Pardon ?
Pourquoi êtes-vous passé à côté de tout ce que vous possédez pour ne pas le montrer ?
Non, c'est pas ça. Parce que le livre, j'ai commencé à la page blanche, naturellement, comme tout le monde. Mais j'ai commencé sans plan. Et j'ai fait une espèce de récit. C'est pas un récit chronologique. C'est une promenade à travers Paris, avec de fil en aiguille, et par les endroits où je passe, des sortes de rosebud, comme dans Citizen Kane, c'est-à-dire des objets, un arbre, une feuille, la couleur d'un nuage qui me rappelle tout d'un coup un événement de ma vie et j'enchaîne là-dessus. Mmh. Alors forcément, le livre avance par grandes périodes comme ça, mais il y a des périodes aussi qui ne sont pas venues. Mmh. Et d'autre part, j'étais un petit peu obligé d'arrêter parce que bon, j'avais noirci des milliers de pages, mais il en restait 600 tapés à la machine et ça faisait en fin de compte un livre qui fait maintenant 313 pages. Mais si j'avais continué, chose que j'aurais parfaitement pu faire, alors là, je ne tournais pas le film que je vais tourner en mai. Comme ça fait 2 ans d'arrêt, il faut que je refasse du cinéma, parce que moi, j'aime bien faire du cinéma.
Justement, parce que votre mère est si présente dans ce livre qu'on finit par oublier qu'il y a quand même tous ces films qui ont été, non pas de grands succès, de fabuleux succès. On pense au Corneau, à La Grande Vadrouille, enfin à tous les autres. Et lorsque je pense à ces films-là, je pense immédiatement à Bourville...
Mais justement, Jacques, par exemple...
L'As des âges, je pense à Belmondo. Vous les avez bien connus, vous auriez pu raconter beaucoup sur eux.
Mais j'en ai raconté,
oui,
c'est-à-dire qu'il y a une partie...
Pas tout ce que vous savez.
Non, mais quand même beaucoup de choses, parce que par exemple, quand je raconte, il y a une chose qui m'a... Le livre s'arrête après L'As des âges, c'est-à-dire en 82.
Oui, et là, on y reviendra tout à l'heure, parce que là, il y a eu comme un combat. Mais
Non, mais là, si vous voulez, Jacques, lorsque Bourville est mort, nous préparions La Folie des Grandeurs. Mmh. Qui était en fait le troisième Bourville de Funès qui devait se faire.
C'est-à-dire Le Corneau, La Grande Vadrouille,
voilà.
La Folie des Grandeurs.
Il devait y avoir La Folie des Grandeurs. Bon, j'avais joué Ruy Blas à la Comédie Française bien des années avant, et il me semblait que ce valet qui devenait par la conspiration de l'affreux Don Salluste, etc., et cet affreux Don Salluste lui-même que j'avais moi-même joué à la Comédie Française, tout ça me semblait tout d'un coup un sujet extraordinaire de films drôles, amusants, avec des maisons secrètes, des duègnes, la fameuse duègne que j'ai fait jouer à Alice Sapritch, j'en ai mille choses.
Le striptease d'Alice,
bon, beaucoup de choses qui m'était venu à l'esprit quand je jouais à la Comédie Française. Donc ça devait être le troisième Bourville de Funès. Et puis, pendant que nous tournions Le Cerveau, André Bourville a commencé à avoir très mal dans le dos. Il avait mal dans le dos en plusieurs circonstances, quand il était courbé. Cet homme qui était athlétique de corps, c'était un homme d'une extrême vigueur, Bourville. Il avait travaillé la charrue jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Il avait des mains fortes, des bras forts. Je me rappelle dans Corneau, à un moment, il prenait une douche. Ce plan est dans le Corneau. C'est un athlète sous la douche. Et il avait très très mal. Et puis, je ne vais pas rentrer dans des détails tristes, mais... Bourville est mort. J'étais en Amérique en train de travailler sur le film avec Daniel Thompson qui s'y trouvait à l'époque. Et Bourville, un jour, j'ai reçu c'était RTL qui m'a téléphoné en me disant « Alors, Bourville, j'étais stupéfait, mais il était mort. » Alors là, s'est posé le problème de ne pas faire La Folie de la Grandeur ou de la faire. J'étais avec Alain Poiret, nous ne savions pas. Et puis, tous les acteurs que nous envisagions, on consultait les annuaires du cinéma. Personne ne pouvait faire couple avec De Funès. Et puis, vous savez, faire le contrepoids à De Funès, hein, il fallait vraiment avoir du punch. Parce que De Funès, c'était une tornade géniale. Donc, il fallait un équilibre formidable. Et puis, un soir, Michel Morgan et moi, nous sommes allés, après un cinéma... nous étions allés voir un film sur Cromwell. Nous sommes allés à une soirée que donnait France de Gand, qui est un agent, où il y avait tout le cinéma. Et là, j'ai rencontré Simone Signoret. Et Simone Signoret m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec ton film ?» J'ai dit « Je crois que je ne vais pas le faire parce que je ne trouve pas l'acteur pour remplacer Bourvil. » Et elle m'a dit « Il n'y a qu'une personne qui puisse le faire. » Je l'ai regardé, je dis « Oui, qui ?» Et elle m'a fait « Lui ». Et je me suis retourné et c'était Yves Montand.
Richidé,
mais en me disant, Simone, en me disant, attention, il faut tout réécrire, parce que Montand ne peut pas remplacer Bourvil, mais si tu réécris le rôle, Montand peut peut-être le jouer. Alors, Montand n'était lui-même même pas au courant de cette idée qu'avait eue brusquement Simone. Bon, c'est une idée qui était éblouissante. Le lendemain, j'ai vu Montand, nous avons travaillé, nous avons réécrit, puis Yves s'est déclaré prêt à jouer le rôle. Alors, nous avons commencé à chambarder entièrement le scénario, à aller en Espagne, où naturellement La Folie des Grandeurs se passait dans les palais espagnols, un petit peu partout, dans la bibliothèque royale de Tolède, dans toutes sortes d'endroits absolument splendides de l'Espagne. Et puis là, j'ai dû me replonger dans une documentation sérieuse, car un après-midi, la porte de mon bureau, où je faisais la préparation du film, s'est ouverte, et Yves Montand est entré, blême, en me disant « Gérard, si les 5 basques de l'ETA de Burgos sont garrottés par Franco, je n'irai pas en Espagne. » Il avait déjà refusé d'aller en Espagne pour y tourner Le Salaire de la Peur de Clouzot, mais il était tout de même persuadé qu'à l'époque, Franco étant quand même sur le déclin, il fallait aller en Espagne, non pas en termes de réconciliation avec le régime franquiste, mais simplement parce qu'il fallait dire aux Espagnols qu'on était avec eux, qu'on ne les tenait pas à mépris.
Oui, ne pas confondre les peuples et les régimes.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il avait accepté, en fin de compte, de venir en Espagne. Mais là, c'était un clash tellement terrible, ce qui fait que pendant quelques mois, à nouveau, je n'ai pas su si la folie des grandeurs allait se faire. Et naturellement, c'était plus important la vie des 5 hommes qui étaient menacés de mort qu'un film. Parce qu'après tout, comme disait Alfred Hitchcock... After all, it's only a film. Hein? Après tout, ce n'est qu'un film, c'est la vie des hommes. Mais je dois dire que quand même, le jour où j'ai appris que le général Franco graciait les 5 basques de Burgos...
Vous avez été rassuré.
Et poussé un soupir de soulagement.
Alors, il y a ces 3 films, et vous paraissez, Gérard Oury, les mettre vraiment au premier plan. C'est-à-dire Le Corneau, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs. Il y a L'As des As, avec Belmondo, mais vous... Vous pouvez
dire Rabbi Jacob aussi.
Oui, Rabbi Jacob, bien sûr, évidemment. Mais vous pouvez dire qu'il y a aujourd'hui des acteurs de cette trempe-là, comme Louis de Funès, comme Bourvil. Fallait-il un metteur en scène comme vous pour les mettre à cette altitude? Parce que c'était de grands enfants, quand même.
Je crois, Jacques Chancel, que la vie est faite de rencontres et qu'ils m'ont autant apporté que je leur apportais moi. C'est tout d'un coup des lignes qui se croisent. Mais toute la vie artistique de tous les artistes au monde, des gens qui écrivent pour les artistes, des artistes qui jouent pour certains créateurs, ce sont des moments qui sont faits de rencontres. La rencontre avec Louis de Funès, celle avec Bourvil, celle avec Jean-Paul, avec Montand, avec tout...
Soyons quand même précis. Les films qui sont venus après n'ont pas eu tout à fait le succès du Corneau et de La Grande Vadrouille. L'As des As, mais après, ça n'est plus été la même chose, avec Coluche.
Mais c'est-à-dire que Le Serpent... il y a eu 2 films seulement après. Le Serpent à plumes a été un échec relatif.
Oui, relatif, c'est vrai. Pour vous, quand même, un échec absolu. Pour vous, Gérard Oury.
C'est-à-dire que le Serpent à plumes a péché par... D'abord, c'est le jeu des 7 erreurs. Si je voulais vous faire la liste maintenant des 7 erreurs, je ne vais pas la faire maintenant... du Serpent à plumes, je connais parfaitement les erreurs que j'ai commises. Quand on a M. Coluche, je fais de l'autocritique. Quand on se trouve au Mexique et qu'on a M. Coluche et qu'il y a des bandits mexicains qui poursuivent, je crois maintenant, j'ai réfléchi, je pense qu'il ne faut pas que Coluche soit poursuivi par les bandits mexicains. Je crois qu'il faut qu'il soit un des bandits mexicains.
Oui.
Puis je crois, dans le domaine du film comique, je crois que quand il y a des danses, des danses de Maya... des danseurs mayas avec leurs plumes extraordinaires, qui sont des ballets extraordinaires que j'avais engagés au Mexique, il ne faut pas que Coluche te regarde. Il faut qu'il soit un des danseurs.
Il ne faut pas qu'il soit D'Artagnan, il faut qu'il soit Planchet.
Naturellement. Alors, ça, je sais très bien, mais...
Alors, regardons l'avenir, Gérard Rory. Oui. Là, il y a très longtemps que vous n'avez
pas... Mais vous
savez,
je dois vous dire que j'ai eu une joie formidable à tourner avec Richard Anconina et Michel Boujna, je dois le dire, parce que ce sont deux acteurs formidables qui, pour Lévi et Goliath, qui est un film qui a eu beaucoup de succès, m'ont beaucoup apporté.
Alors, Michel Boujna, Richard Anconina, deux comédiens installés déjà aujourd'hui, mais peut-être qui n'ont pas, pour des raisons qui sont peut-être stupides, la carrière qu'a pu faire Louis de Funès, la carrière qu'a su faire Bourville.
On ne le sait pas, ils ont 35 ans.
J'ai beaucoup joué sur Anconina et sur Boujna et je les aime tous les deux. Ça n'est pas la question, mais c'est peut-être qu'un autre cinéma vient de naître qui n'est pas celui que vous faites. Alors, ce qui me passionne aujourd'hui, Gérard Rory, c'est le film que vous allez réaliser demain, car on vous attend au tournant. Le livre, c'est très bien. Le livre, nous l'avons là. C'est un magnifique récit. On a envie vraiment d'en savoir encore plus.
Écoutez, mais... les films dont nous venons de parler, c'est le passé.
Bon, mais
le bouquin, c'est le présent.
Et demain, alors,
le prochain film, c'est l'avenir. Et peut-être un roman derrière, parce que le fait d'écrire ce bouquin m'a donné envie.
Non, le prochain film, c'est quand?
Ben, le prochain film, c'est en mai.
Ah, mais c'est vite, ça.
C'est vite. Je suis en train d'écrire le Seigneur. Vous savez, je ne me suis pas arrêté. Nous sommes en train d'écrire avec Daniel Thomson l'histoire du prochain film qui s'appelait Vanille Fraise, mais qui ne va plus s'appeler Vanille Fraise.
Ça va s'appeler comment ?
Je ne sais pas comment ça va s'appeler.
Si vous le savez.
Non, je vous donne ma parole d'honneur que non.
Vanille Fraise, c'était joli.
Oui, mais pour des raisons objectives, ça ne va pas s'appeler.
Avec qui ?
Eh bien, il n'y a pour le moment qu'un acteur de formellement décidé. Il y en a un autre formidable de pressenti. Mais il y a un acteur décidé et un pressenti pour le moment. Alors, le décidé, qui est un des trois rôles importants de ce film qui se tourne en Italie, c'est Pierre Arditi. Qui est un acteur que j'ai trouvé prodigieux à la fois dans les films d'Alain René, et prodigieux dans Tailleur pour dames, et qui a un immense sens du comique, qui est un très grand comédien, et qui joue le rôle du mari dans cette histoire. Parce qu'il y a le mari, non pas le mari, la femme et l'amant, mais il y a trois personnages. Il joue le mari. Et puis il y a un autre personnage, et il y a une jeune femme. Bon, alors voilà, ça, on est en train d'écrire ça. C'est basé sur... C'est basé sur l'histoire des faux époux Turange. Donc c'est une histoire, c'est une aventure, c'est une comédie, c'est un film comique. Et ben j'espère que le réussir.
Un peu politique aussi.
Un peu politique aussi, comme toujours.
Vous connaissez ce jeune comédien Thierry Frémont, je crois.
Oui, je l'ai vu.
Vous avez regardé, allez voir le film qui ne sort pas encore, de José Giovanni.
Ah, je ne l'ai pas vu encore, Le Traître.
Mon ami Le Traître.
Oui.
J'ai rarement vu un comédien de cette trempe.
Non, mais je sais, il avait eu le prix Jean Gabin il y a, je crois, un an.
Non,
c'est bien
mais
lui,
si vous hésitez sur un comédien, il est capable de tout faire. J'aimerais bien que sur France Inter, à 17h37, on ait eu l'idée ensemble.
Enfin, ça serait formidable. Mais 17h37, je tourne le dos à l'horloge.
Tout à l'heure, on parlait de Louis de Funès, et vous parlez évidemment, vous écrivez beaucoup à son sujet. Alors là, vous racontez un peu comment ça s'est passé pour... la rencontre pour la grande vadrouille ?
Non, mais vous savez, Louis de Funès, moi je considère que c'est un acteur totalement génial, qui avait tout d'un coup des immenses éclairs qu'il fallait savoir piquer et filmer au moment où ça se passait, parce qu'il était une machine qui se mettait en route très très lentement, et il recherchait son terrain de combat, et tout d'un coup, ça explosait avec une espèce de génie extraordinaire. Et le grand problème, c'était quelquefois même dans une scène qui pouvait à la limite être banale, d'attendre le moment où je pressentais, et de pressentir le moment où ça allait, où l'éclair de génie allait sillonner le ciel.
Mais il y avait une vraie générosité chez cet homme.
Ah, complètement.
Et les gens venaient, je ne voudrais pas vous faire de la peine, ils venaient pour voir un film de Gérard Rory, mais ils venaient voir Louis de Funès.
Mais c'est évident. Non, mais vous savez, il est certain que quand on annonçait tel film avec... Il y a un cas tout à fait extraordinaire, si vous me permettez, Jacques Chancel, de parler d'un phénomène tout à fait étonnant et qui s'est passé pendant un film qui n'est pas de moi. Il s'agit de Fantômas. Le crédit de Funès, ce crédit de rire, son pouvoir sur le public était tel que dans, je crois, le deuxième Fantômas, le film commençait par une porte. Mais sur la porte, il y avait écrit « Inspecteur Juve », qui était le rôle que jouait de Funès. Et la porte apparaissait sur l'écran, et à ce moment-là, le cinéma hurlait de rire. C'est même fabuleux de penser. Il n'y avait pas de funeste sur l'écran. Il y avait simplement une porte avec le nom du rôle qu'il jouait. Ouais, ouais. C'est dire le pouvoir psychique sur une collectivité de spectateurs de Louis.
Et puis c'était aussi la fraternité du tournage, l'amitié, parce que ça allait au-delà. Au-delà de
ouais, vraiment, c'est une formidable aventure qu'il y a eu entre Bourvil de Funès et moi. C'est une tranche de vie, on ne sait même pas qu'on la vivait parce qu'on n'est pas conscient des heures importantes qu'on vit au moment où on les vit. C'est toujours ce que je dis, quand je parle du bonheur. L'important, c'est d'avoir conscience du bonheur quand on l'a. Parce qu'on se dit, j'étais heureux, mais on ne le sait pas au moment où on est heureux. En ce moment, par exemple, je suis très heureux, j'en sais rien du tout.
Il vous offrait des arbres.
Non. Lorsque Michel Morgan et moi, nous avons emménagé, si j'ose dire, la maison que nous avions construite dans le Midi, aux Oliviers, Louis et Jeanne de Funès m'ont envoyé un olivier avec une carte pendue, comme exactement ce qu'il l'aurait fait sur un azalée, avec « Pour que tu penses à nous chaque fois que tu rentreras chez toi ». Et comme je le dis dans le livre, il est certain qu'à chaque fois j'y pense.
C'est beau d'avoir eu ce type de relation.
Les histoires d'amitié, c'est aussi beau que les histoires d'amour.
Alors l'amitié se poursuit parce qu'il y a un pianiste que vous aimez, François-René Duchâble, et vous l'aimez pour mille raisons.
Oh, je l'aime pour mille raisons. Je l'aime parce qu'il a beaucoup de talent, et je l'aime parce que ma mère l'aimait, parce qu'il a aimé ma mère. Et qu'il lui a donné des joies formidables. Je dois dire que j'avais acheté un piano à ma mère, un petit peu pour cela. Et il venait répéter ses concerts, ses concertos, ses récitals chez elle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle habitait au rez-de-chaussée, moi au premier. Et je savais, quand j'entendais des flots de musique qui montaient, que Duchâble était là et qu'elle était alors, elle était assise à côté de lui. Et c'était une joie formidable de l'entendre répéter. Il ne s'occupait pas d'elle, il répétait. Et c'était merveilleux.
Une fois, Arthur Rubinstein m'avait appelé et il m'avait dit « Si tu veux voir un grand tout petit, tu viens tout de suite chez moi ». Et c'était François-René Duchâble.
Voilà, c'était le poulain de Rubinstein et lui aussi l'avait bien choisi.
Je reviens à votre livre, Gérard Horry, mes Mémoires d'éléphant, qui paraît chez Olivier Orban. Et c'est un épisode pendant le tournage de Rabbi Jacob. Vous écrivez: le dimanche 8 juillet 1973, je débarque à l'hôtel du Lion d'Or, tout en bas de Vézelay. Nous n'y resterons que peu de jours, le temps de mettre en boîte à Méry-sur-Yvonne un épisode pas facile. De Funès et Guibet, à moitié nus, doivent remorquer une embarcation dans des marécages sous les trombes d'eau que déverseront les pompiers locaux. Alors la régie a logé les équipes alentours dans cette région où, 7 ans auparavant, je suis venu tourner plusieurs séquences de la Grande Vadrouille. Donc ce sont les souvenirs qui s'installent.
Oui, le hasard a voulu que nous retournions à Vézelay, après où j'avais déjà tourné la Grande Vadrouille, avec Bourvil et De Funès, et Bourvil était mort. Donc, quelques années auparavant.
Par là, suivez-moi, s'il vous plaît. C'est le bagagiste du Lion d'Or qui vous guide à travers des couloirs obscurs. Un numéro que je ne distingue pas, écrivez-vous, sur une porte qui s'ouvre. La vision me saute aux yeux. On m'installe dans la chambre qu'occupait Bourvil pendant la Grande Vadrouille. Je reconnais sur la cheminée le globe de cristal recouvrant des épis de blé mûr. Ils ont à peine jauni. Et la table où, avec Louis, nous répétions la scène de l'engueulade entre Gustin et Stanislas quand ils se disputent leur vélo et que passe une patrouille allemande. On se souvient d'ailleurs. Nous, on se souvient. Le bagagiste a posé ma valise sur une chaise, ouvert les persiennes. La lumière d'une fin d'après-midi ensoleillée envahit la pièce et je découvre un énorme bouquet de fleurs posé dans une encoignure. Une carte, je l'ouvre. Elle est gravée « Louis et Jeanne de Funès ». Ces roses du souvenir, cher Gérard, Bourvil et moi, te les offrons. Louis. C'est formidable.
J'avais pensé à Bourvil mort.
Ces fleurs, cette chambre, cette carte, est-il possible que, telle la pellicule garnant notre image et l'empreinte de nos voix, cette pièce ait conservé la chaleur de notre amitié? Je débarrasse ma valise, parmi mes affaires, la radio portative que je trimballe partout. Je la pose sur un meuble, l'ouvre machinalement et du poste sort la voix de Bourvil. Il ne chante pas un de ces airs rigolos qu'il affectionnait, mais fredonne avec la résignation de quelqu'un qui sait cette mélodie qui parle d'amour, d'amitié et s'appelle la tendresse. Est-ce la circonstance, le lieu, ces fleurs, je l'aperçois ainsi, on frappe. Je m'entends à peine murmurer, entrez. C'est Louis, il est seul. Jeanne s'occupe des bagages qu'elle installe dans leur chambre, il referme la porte, s'y adosse, très pâle. Lui aussi a reconnu la chambre, entendu la voix d'André. De Funès ne dit rien, moi non plus. Si un ange passe, quel est son nom?
Je peux pas jeter...
Vous croyez donc au signe ?
Je ne peux pas jeter quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose qui m'est resté comme un certain nombre de signes qui, effectivement, que j'ai eu, ou de signaux au cours de ma vie. Et ce moment-là est un moment qui m'a totalement bouleversé. Mmh. Je l'ai raconté exactement tel qu'il s'est passé.
Alors on ne peut pas oublier le comédien que vous avez été, parce que vous avez été... Vous avez été à la Comédie Française pendant tout le temps où vous ne pouviez pas travailler en France. Vous êtes parti pour la Suisse et vous avez beaucoup joué là-bas pendant toute la guerre. Alors, étiez-vous, Gérard Oury, un bon acteur ?
Écoutez, je ne sais pas trop. Il est certain que... j'ai renversé un verre d'eau.
Oui, mais c'est de l'eau.
C'est du bonheur. Mais le verre ne s'est pas cassé. Ouais. Est-ce qu'il faut le casser comme...
C'est un double bonheur.
Des Russes.
C'est un double bonheur.
Non, après bien des mésaventures de 40 à 42, 43, je suis parti pour la Suisse, effectivement, où j'ai réussi à... là-bas, à vivoter. À Genève, à l'époque, il y avait le Théâtre de la Comédie qui était dirigé par Maurice Jacquelin, qui était un acteur français, metteur en scène. Et j'ai joué d'affilée beaucoup de pièces de théâtre. Il fallait ça, naturellement, pour subsister. Car tout ça, on n'était pas bien riche, on n'avait pas de sous. Et pendant toute cette période, j'ai dû jouer, effectivement, une 60 pièces de théâtre, avec naturellement des rôles... Pas naturellement, avec des rôles principaux. Mmh. Alors, les jouer, je bien, je ne sais pas trop, parce qu'il est certain que quand on fait un travail aussi rapide sur Don Juan de Molière, sur Lorenz Accio, sur des racines des Molières, on fait un travail quand même un petit peu superficiel.
Oui, mais c'est quand même bien d'avoir été de la Comédie Française. Ça pose un acteur.
Oui, enfin, alors après ça, j'ai commencé à faire du cinéma, il s'est passé un phénomène étrange, c'est qu'on ne me donnait à jouer que les rois de France ou les voyous. C'est ce qui était quand même curieux.
Alors là, je vais vous lire, Gérard Oury. Oui. Je me regarde dans la glace, écrivez-vous. Oui. Franchement, ai-je la gueule des rôles pour lesquels on m'engage ? François Ier et Napoléon me rassurent, mais tout de même, je viens de me faire gifler 14 fois de suite par Bourville dans le Passe-Muraille, révolverisé par Robert Hossein dans « Méfiez-vous, fillette », traîné dans la boue par Gérard Philippe dans « La meilleure part », cassé la figure par Montan Jurgens dans « Les héros sont fatigués ». C'est vrai. Pourquoi ? Vous n'avez pas une gueule de voyou, quand même.
Mais je ne sais pas, mais j'étais très brun à l'époque. Maintenant, j'ai les cheveux blancs. J'étais très brun à l'époque, très maigre. Peut-être que... Enfin, on me donnait ces rôles-là, j'aime mieux vous dire que j'étais très content de les prendre, parce qu'ils me permettaient de gagner ma vie et de faire vivre ma petite famille. Il n'était pas question de refuser ces rôles-là. J'étais très content de travailler, et je suis très content d'avoir travaillé, d'avoir tourné ces rôles-là, parce que c'était avec des très bons metteurs en scène, comme Yval Legret, comme Yves Ciampi, comme André Cariat, comme un certain nombre d'autres réalisateurs.
Et Raymond Rouleau aussi.
Et Raymond Rouleau, c'est Raymond Rouleau au théâtre.
Au théâtre du Vieux Colombier.
C'est un homme auquel je dois... à peu près tout ce que je sais dans le domaine, en tout cas la direction d'acteur. C'était un prodigieux metteur en scène, un homme avec lequel on pouvait partir la main dans la main à l'exploration, explorer les rôles qu'il vous distribuait, d'ailleurs avec beaucoup de difficultés, parce que c'était pas un homme complaisant. Et j'ai joué avec lui plusieurs pièces de théâtre à Paris, dont Anna Karénine, dont Les Vivants d'Henri Troyat, La neige était sale de Georges Simenon, adapté par Frédéric Dard, et puis une pièce américaine très intéressante qui s'appelait Country Girl, et qui avait été tournée au cinéma par Grace Kelly et William Holden, et que j'ai joué au théâtre des Mathurins avec lui. Donc c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup appris et qui a été un des grands hommes de théâtre de l'après-guerre.
Mais si aujourd'hui, Gérard Oury, quelqu'un vous proposait de revenir sur la scène...
À aucun prix.
De jouer un rôle dans un film ?
À aucun prix. On me l'a proposé. Oui. Jules Dassin m'a proposé de tourner dans La Promesse de l'Aube. Jean-Pierre Melville, en son temps, m'a proposé de revenir.
C'est parce que vous êtes monté trop haut ? Parce que vous êtes un réalisateur films à succès ?
Mais je n'aime pas me voir à la télé, pas du tout. J'aime pas me voir. De toute façon, si j'avais continué, qu'est-ce que je jouerais aujourd'hui ? Je jouerais des hommes de mon âge. Pas tellement marrant.
Dans votre livre, il y a un portrait. Cela se passe au cours René Simon. Donc, c'était il y a un certain nombre d'années, et vous écrivez ceci. Je monte sur l'estrade pour voir les yeux, ni vert, ni bleu, mais turquoise, allongés vers les tempes, à la perpendiculaire, du plus beau nez du monde. Il confère au visage de cette fille, qui irradie noblesse et douceur, l'aspect d'un félin plus chat que tigre, prêt à s'esquiver à la moindre tentative d'annexion. Et c'est évidemment le portrait de Michel Morcan, c'est votre première vision. Elle ne vous a même pas remarqué. Il est quand même bon de le souligner.
Mais
elle
est bon de le souligner.
Elle ne vous a pas vu.
Mais je n'avais rien
elle,
de...
Elle vous a ignoré longtemps.
Mais je n'avais rien de remarquable. Je n'avais rien de remarquable. Elle était revenue... Je suis arrivé au cours Simon, moi, à 18 ans, juste au moment où j'entrais au conservatoire. D'ailleurs, René Simon était professeur au conservatoire. Alors, il y avait un certain nombre de garçons qui étaient là, François Perrier, Jacques Castelot, de garçons et de filles, Jacqueline Porel, des gens qui étaient les élèves du cours Simon à l'époque. Et un jour, je suis arrivé, et effectivement, Michel, qui venait de tourner Gribouille, était revenu pour dire bonjour au patron, entre guillemets, comme nous l'appelions. Et évidemment, les 150 élèves qui étaient là s'étaient groupés autour de cette jeune fille, conscients qu'il lui arrivait une aventure extraordinaire et persuadés que ça pouvait arriver à chacun d'entre eux de devenir du jour au lendemain une grande vedette, d'avoir son visage sur tous les magazines. Et tout le monde l'a regardé. Moi, alors, je l'ai vue, évidemment, de très loin. De toute façon, il n'y a aucune chance qu'elle me voie, puisque moi, j'étais derrière les 150 personnes sur la pointe des pieds pour l'apercevoir. Et que j'avais aperçu une fille d'une rare beauté.
Aujourd'hui, on sait quelles sont vos relations avec Michel Morcan, mais vous êtes gêné parfois lorsque, à cause de ce livre, on fait des titres sur Michel Morcan, alors qu'elle a sa place, évidemment, dans le récit de votre vie, mais au même titre que votre mère, que d'autres amis, que vous avez été, comme d'habitude, plein de pudeur à son sujet.
Oui, enfin, je veux dire que c'est aussi un petit peu naturel qu'étant donné l'immense star, le star système des médias, ouais. le projecteur soit sur Michel. Mais effectivement, j'ai fait un livre pour, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de me retrouver moi-même avec le passé, avec le présent et peut-être même un peu avec le devenir, comme on dit aujourd'hui. Et... Bon, je ne suis pas contrarié de cela parce que nous avons depuis maintenant 30 ans une extraordinaire union et un amour merveilleux. Mais je veux dire que je pense qu'il y a peut-être d'autres choses dans le livre que simplement...
Il y a beaucoup d'autres choses.
Les histoires d'amour que nous avons, c'est un tout petit peu... ça relève un tout petit peu de la presse du cœur.
Alors il y a un épisode... qui aurait pu être malheureux dans cette vie, c'est le succès de L'As des As, parce que des critiques ont voulu vous opposer à Jacques Demy, qui à ce moment-là présentait Une chambre en ville. Le film de Jacques Demy n'était pas un succès, et certains ont cru pouvoir dire que la compétition était malheureuse, que vous aviez trop de succès, et qu'il n'en avait pas assez. Il y a eu une pétition, je ne sais plus combien de critiques. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous êtes gendarmé, Paul Belmondo a écrit une superbe lettre et vous avez même été protégé par d'autres critiques aussi, comme Gérard Lefort de Libération en ce moment-là.
C'est-à-dire, de Gérard Lefort de Libération, je ne voudrais surtout pas avoir l'air de l'annexer. Je veux dire, il a fait le point de la situation un article juste, où il prenait en fin de compte pas parti, mais qui était en fin de compte...
Mais il y a une phrase de lui, « Outre son odeur de bonne sœur pleurnicharde, ce texte se manifeste ». Contre vous, ce texte pointait en effet de façon un peu suicidaire la sempiternelle impuissance des ciné-critiques, tarte à la crème sur laquelle il aurait mieux valu être discret. C'est vrai que lorsqu'un critique n'arrive pas à poser le film qu'il aime, il a parfaitement le droit en lui-même d'être malheureux.
Je veux dire, Jacques Chancel, il y a un fait certain, si vous voulez, c'est que je ne crois pas qu'un film qui a du succès chaparde. Le public d'un film qui n'en a pas.
Il ne faut surtout pas opposer les films.
La publicité des films est à peu près toujours la même aujourd'hui. Hier est sorti ce Roger Rabbit, lapin de Spielberg.
Ouais, c'est-à-dire des personnages vivants avec un dessin animé.
Il y a eu un flot. Il y a eu 35 000 spectateurs dans les cinémas mercredi pour voir ce film. Il n'a chapardé de film de public à personne. Ce sont des phénomènes qui se passent, qui font que tout d'un coup, le public est attiré par quelque chose. Il faut souhaiter que les choses arrivent à chacun à leur tour. D'autant plus que, je le répète, Jacques Demy est un cinéaste que j'estime énormément, qui est un homme d'un immense talent et qu'il a fait des films tout à fait magnifique et que je déplore et que je suis persuadé qu'il n'était pour rien dans cette espèce de phénomène de mauvaise humeur qui a eu à l'époque et qui n'est après tout qu'une tempête dans un petit verre d'eau. Alors comme celui que j'ai renversé tout à l'heure.
Vous traitez des sujets explosifs, et là, je m'aperçois que les minutes passent vite. L'antisémitisme, c'était Rabbi Jacob. L'Allemagne nazie, c'était l'As des As. Le terrorisme, c'était le serpent à plumes. On ne peut pas rire de tout, et on le sait. Mais vous écrivez, avec Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille demeure mon film préféré. Je ne renie rien de ce que j'ai fait. Et chaque fois qu'à la télé, je vois Le Corneau, L'As des As ou La Folie des Grandeurs, j'y découvre que des choses que j'aime bien. Puis un peu plus loin, vous parlez de l'aveu de Louis de Funès qui est beau. Il faut faire très attention aux acteurs quand on les dirige. Ils sont comme le papier de soie. C'est facile de les froisser et plus facile encore de les déchirer. Et je trouve que cette phrase, elle est très très belle. Et
c'est parce que je suis un acteur.
Et on voit que vous les aimez, les acteurs. Oui. Merci pour ce livre, Gérard Houry, qui paraît aux éditions Olivier Orban. Mémoire d'éléphant, on vous retrouvera bientôt chez mon ami Bernard Pivot dans Apostrophe. Et j'espère que vous y serez brillant.
Mon Dieu, j'ai très le trac. Merci en tout cas, cher Jacques Chancel. J'aime toujours parler avec vous.